France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est à la recherche d'Iris Murdoch, philosophe écrivaine, que nous avons décidé de nous lancer. Et aujourd'hui, cette recherche prend une dimension franchement morale, puisque nous partons avec elle sur les traces du bien. Comment devenir meilleur au quotidien dans ce que la vie a de plus concret et de plus réel? Et si nous sommes par définition égoïstes et mortels, comment avoir envie d'être bon ici et maintenant et sans contrepartie pour rien?
I think one of the most important things in being an artist, perhaps in being a human being.
Selon moi, l'une des choses les plus importantes dans le fait d'être un artiste, ou peut-être simplement lorsqu'on est un humain, c'est le courage. Vous devez avoir le courage de détruire, de rejeter ce qui ne vous apparaît pas bon, et le courage de vous accrocher à un moment donné. C'est assez difficile à expliquer, mais il y a une tentation très forte quand on sait faire quelque chose relativement bien. C'est de vite passer du moment où vous vous dites que tout cela est provisoire, c'est un croquis, pas vraiment la chose terminée. Ah, maintenant, c'est trop tard, c'est fini. Je vais passer directement de « c'est trop tôt » à « c'est trop tard ». C'est entre ces deux étapes que se trouve l'espace que vous devez élargir. C'est là qu'intervient le courage.
Bonjour Emmanuel Allais et bonne année.
Merci, bonne année à vous aussi.
Vous êtes maître de conférences à l'université d'Amiens. Vous êtes également l'auteur du livre « Une certaine vision du bien » paru aux éditions PUF. Comment avez-vous découvert la pensée d'Iris Murdoch? C'est une question que je pose à chacun de mes invités depuis le début de cette semaine. Parce qu'il faut quand même le dire, cette philosophe écrivaine, je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand même très peu étudiée ici en France.
Oui, c'est vrai. Pendant mes études, il n'y avait pas de cours sur Murdoch. Donc en fait, c'est pendant que je travaillais sur ma thèse, un des aspects portait sur l'éthique de George Edward Moore. Et je suis tombé, en fait, par hasard sur le livre La souveraineté du bien. Et j'ai été très frappé, en réalité, par ce livre, parce que j'avais l'impression que Moore devenait, pour moi, humain, pour la première fois. Comme si toutes les thèses très abstraites de ce philosophe devenaient soudain concrètes parce que rattachées à des traits de la condition humaine.
Alors, vous parlez de ce livre qui s'appelle « La souveraineté du bien » d'Iris Murdoch, qui n'est pas en fait un seul livre, mais trois essais. Il est paru en 1970. Ces trois essais sont « L'idée de perfection »,« La souveraineté du bien sur les autres concepts » et « De Dieu et du bien ». Comment vous êtes tombé, vous dites « Je suis tombé presque par hasard sur les livres d'Iris Murdoch ». Iris Murdoch était une philosophe, écrivaine qui était beaucoup lue à son époque, de son vivant. Et vous, comment vous tombez sur ces livres par hasard?
Alors, je suis tombé dessus par hasard, en fait, j'étais à l'université de Cambridge.
Ah non, ouais, vous étiez quand même dans un milieu anglo-saxon.
C'est ça, tout à fait. Et c'est là, en fait, qu'en cherchant les commentaires qu'il pouvait y avoir sur l'œuvre de Moore, je suis tombé sur ce livre.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette pensée, dans ce livre?
Il y a beaucoup de choses. Effectivement, d'une part, il y a le commentaire que Murdoch fait de l'éthique de Moore. Plus largement, il y a ces questions, au fond, assez universelles qu'on ne peut pas réduire au simple cadre de la philosophie analytique, qui sont justement cette idée de notre caractère mortel, l'idée de notre caractère égoïste également, et la question de savoir comment de ces traits qui sont plutôt négatifs, on peut faire émerger justement une conception, non seulement une conception du bien, mais une conception du bien qui est extrêmement exigeante, puisqu'elle parle vraiment du bien comme d'un absolu.
Mais en même temps aussi, et c'est ce dont nous allons parler durant l'heure qui vient, Emmanuel Allais, Iris Murdoch a aussi une vision extrêmement concrète du bien. Iris Murdoch est une philosophe qui pose la question « Comment devenir meilleur au quotidien, à travers des actes très concrets. On va revenir sur des questions vraiment précises, mais par exemple, faut-il préférer sa famille au métier dans lequel on est bon, par exemple? Ça, c'est un vrai dilemme moral qu'on peut rencontrer, que chacun d'entre nous a pu peut-être rencontrer.
Oui, tout à fait. Il y a chez elle ces deux aspects. En fait, elle écrit dans la souveraineté du bien que le bien est à la fois transcendant et immanent. Dire qu'il est transcendant, c'est dire qu'il est au-delà en fait de l'expérience humaine et que c'est depuis cet au-delà qu'il exerce son autorité sur nous. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, dire qu'il est immanent, c'est dire que il y a des degrés de bonté qui traversent chaque pan de l'existence humaine. Comme elle le dit, les valeurs sont dans l'air que l'on respire. Donc, effectivement, il y a vraiment ces deux aspects.
Vous avez cité, Emmanuel Hélé, le philosophe George Edward Moore.
Oui.
Qui est-il ? Était-il proche d'Iris Murdoch ? Et qu'est-ce qui vous intéressait dans sa pensée pour à la fois faire une thèse sur lui et en même temps le trouver, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, désincarné ?
Moore est considéré comme un des grands-pères de la philosophie analytique. Mm-hmm. Hein, souvent, on cite Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell, Gottlob Frege. Moore fait également partie de ces patriarches, même s'il est moins connu que les autres. Et en particulier, il a participé à ce qu'on a appelé la révolution réaliste au début du XXe siècle, où en Angleterre, le réalisme venait s'opposer à un courant qui était un courant idéaliste, largement inspiré des théories de Hegel et des néo-hégéliens. L'intérêt pour moi de Moore, mis à part ce contexte qui est un petit peu technique, c'est qu'il est à l'origine de ce qu'on a appelé le réalisme moral. Et le réalisme moral, c'est une thèse philosophique qui consiste à poser deux thèses. Il y a une thèse ontologique qui mm-hmm. dit que le bien est une réalité à part entière. Donc, c'est pas quelque chose que nous inventons, c'est pas quelque chose que nous projetons sur le réel, c'est un ingrédient du réel.
Mais c'est pas un objet non plus que je peux prendre dans les mains.
Alors, non, effectivement. Pour être un peu plus précis, il dit que c'est une propriété non naturelle des mm-hmm. choses. Donc, étant une propriété non naturelle des choses, ça veut dire que on ne peut pas la réduire à des éléments du monde naturel, en particulier à des éléments psychologiques, ou au plaisir, par exemple. Hein. Il est à une époque où on discutait beaucoup les théories utilitaristes. Mais ce qui est important chez Moore, et je pense aussi très important pour Murdoch, c'est que Moore conçoit le bien sous l'aspect de la vision.
Mmh.
Hein, c'est Moore qui a insisté sur le fait que avant de nous dire comment on doit agir ou comment on devrait agir, les philosophes devraient s'interroger sur ce que c'est que le bien. Et lui, son modèle était un modèle effectivement perceptif. Ce que Murdoch reprendra, même si c'est dans des termes un petit peu différents.
Mais alors ça, c'est quand même assez dingue, Emmanuel Hélé. Ça veut dire que là, si je regarde bien autour de moi, puisque vous parlez de perception, je peux voir le bien.
Alors,
c'est plus compliqué que ça.
En réalité, pas exactement. Pour Murdoch, on a une perception en fait des situations.
Mm.
Ces situations, que ce soit la situation extérieure ou intérieure, présentent différents degrés de valeur. Et on est sensible en fait à ces différents degrés de valeur parce que on a une sorte de sens de la perfection. On a une sorte de sens du degré qui serait le degré le plus élevé. Et donc, nous établissons des comparaisons. Et en revanche, la question pour Murdoch de savoir si on peut réellement voir le bien, effectivement, c'est une question à part entière. Mm. Et c'est une question difficile parce que elle dit on ne peut pas voir le bien comme on perçoit les comportements bons. Ce n'est pas la même chose.
Vous parlez de situation, Emmanuel Hélé. Alors, si le bien n'est pas un objet que je peux saisir comme je pourrais saisir cette gourde qui est à ma gauche,
oui.
Si le bien apparaît dans des situations mais n'est pas relatif à des comportements qui sont bons, alors où est-il ?
Alors, elle parle d'une source distante de perfection, mm-hmm. sur laquelle on peut en réalité se concentrer, un peu sous la forme d'une méditation ou de ce qu'elle appelle une prière non dogmatique. Hein, c'est son expression. Alors,
Là, c'est pas très incarné, hein, pour le coup. Vous nous avez dit que vous aviez trouvé de l'incarnation avec Murdoch par rapport aux théories de George Edward Moore.
Oui.
Là, la lumière qui inonde, on a du mal à comprendre en quoi c'est quelque chose d'incarné.
Oui. La question qui se posait à Murdoch, c'est de dire que il y a une réalité du bien qui ne se réduit pas aux actions bonnes. Et c'était une manière pour elle de nous expliquer que la philosophie morale ne s'intéressait pas simplement au domaine de l'action ou au domaine du comportement. C'est pour ça, par exemple, qu'elle était très méfiante vis-à-vis d'un courant qui était le behaviorisme. Mm-hmm. Mais que la source de la morale devait être cherchée, en réalité, dans l'intériorité. Mm-hmm. Mais, en réalité, il n'y a rien de plus concret sous un certain aspect, parce que la morale est à chercher du côté de l'attention et du côté en particulier de l'effort continu de l'attention pour percer une sorte de voile d'illusion qui est un voile égocentrique qui nous entoure justement dans la vie de tous les jours.
On va déplier l'ensemble des choses que vous nous avez déjà annoncées, Emmanuel. Allez, c'est un peu le programme, on va dire, quand même, de cette heure. Vous avez parlé notamment de faits anthropologiques inhérents à la nature desquels part Iris Murdoch pour vraiment élaborer sa philosophie morale. Eh bien, on va tout de suite écouter ce texte où elle parle à la fois de l'égoïsme de l'homme et de l'absence de finalité extérieure ou de télos extérieur, nous dit-elle.
Je tiens pour accorder, d'une part, que les êtres humains sont égoïstes par nature, et d'autre part, que la vie humaine n'est ordonnée à aucun point fixe ou télos extérieur à elle. Que les êtres humains soient naturellement égoïstes semble être, ou qu'on les observe dans le temps et dans l'espace, une vérité d'évidence, en dépit d'un très petit nombre d'exceptions apparentes. Pour ce qui est de la nature de cet égoïsme, la psychologie moderne a fait certaines découvertes. Le psychisme est un dispositif individuel historiquement déterminé, s'activant implacablement à prendre soin de lui-même. À certains égards, il ressemble à une machine. Il a besoin, pour fonctionner, de sources d'énergie, et il est prédisposé à agir suivant des programmes déterminés. Le degré de liberté, tant vanté, de sa capacité de choix, n'est généralement pas très élevé. Que la vie humaine ne soit ordonnée à aucune sorte de point ou de télos extérieur est une proposition aussi difficile à argumenter que son contraire. Aussi me contenterai-je de l'affirmer. Cette vie est intérieurement peuplée de plans et de desseins, mais elle n'est pas subordonnée à un plan ou à un dessein général qui la garantirait en quelque sorte du dehors, à la manière de ceux que philosophes et théologiens s'efforcent traditionnellement de mettre en lumière. Nous sommes bel et bien ce que nous semblons être, d'éphémères mortels soumis à la nécessité et au hasard.
Extrait d'Iris Murdoch, La souveraineté du bien sur les autres concepts. C'est une conférence de 1967 que l'on trouve dans le livre La souveraineté du bien. Ce texte a été lu par Philippine de Bellois. Ce texte pose tout de suite les bases de la philosophie morale d'Iris Murdoch. Emmanuel Allais, est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux traits que sont l'égoïsme, qui semble assez simple, mais surtout ce deuxième point de l'absence de but extérieur?
Oui, l'égoïsme, comme on le voit dans l'extrait, c'est un fait effectivement quotidien, un fait d'évidence. On peut voir que chacun d'entre nous sommes égoïstes. Mais elle dit aussi dans cet extrait que la psychologie moderne a des choses à nous dire sur cet égoïsme. Et là, en fait, elle pense à Freud. La description qu'elle reprend à Freud de l'idée de l'âme humaine comme étant une sorte de machine qui utilise des sources d'énergie et dont la plupart du temps, ces sources d'énergie sont faites pour se protéger elles-mêmes. Se protéger elles-mêmes, c'est-à-dire se protéger des réalités déplaisantes. Et là, en fait, il y a toute la question philosophique de l'illusion qui est posée, puisque finalement, ça veut dire qu'il y a une différence entre les apparences et la réalité, et que l'égoïsme, peut-être, avant d'être une question morale, c'est d'abord une question cognitive.
C'est que c'est pas un défaut moral. C'est pas, on pourrait presque dire, Emmanuel Allais, c'est pas mal, en fait, d'être égoïste. C'est, alors j'allais dire une défaillance, mais c'est déjà péjoratif, un mécanisme psychique.
Alors, cela étant, pour elle, c'est quand même quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qu'on voit justement quand on place cette situation humaine en contraste avec ce qu'elle appelle le bien, donc qui est justement l'effort pour essayer de passer par un regard aimant à travers ce voile de l'illusion. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Pour l'idée de l'absence de fin extérieure ou l'absence de télos, ce que Murdoch veut nous dire, c'est que il n'y a pas de destination en fait du monde qui soit extérieure à la vie humaine. Elle le dit, il y a des plans, il y a des projets, il y a des intentions qui sont inhérents en fait à la vie humaine, mais il n'y a pas de but extérieur.
Elle veut dire qu'il n'y a pas de but extérieur à l'humanité, à la nature, ce qu'on a déjà pu lire sous la plume, par exemple, d'un Emmanuel Kant, qui nous dit il n'y a pas de téléologie de la nature. On ne va pas se dire que la nature a un but avec des intentions qu'elle va mettre en application. C'est ça qu'elle veut nous dire, ou elle nous parle des projets à un niveau individuel?
Alors, ce qu'elle dit très précisément, c'est quelque chose sur la vie humaine. Et pour la qualifier, elle emploie des termes comme self-contained, circonscrite à elle-même, qu'on pourrait traduire aussi par autonome. Et en fait, ce que ça signifie, c'est que il n'y a pas de but extérieur au sens où il n'y a pas de Dieu. Et ça, c'est vraiment un point pour elle qui est fondamental.
Ça veut dire que on se situe à un plan qui n'est pas celui de la nature, qui n'est pas celui en fait purement, on pourrait dire, individuel, à par exemple à mon niveau moi seul. Ça se situe à un niveau plus de l'ordre de la généralité, qui serait celui de l'humanité.
Alors, pour reprendre un terme qu'elle a employé dans un ouvrage ultérieur, elle dit qu'il n'y a pas de ce qu'elle appelle de cosmic design. Il n'y a pas de dessin cosmique.
Et elle dit c'est mieux en anglais, c'est vrai, cosmic design.
Oui. Et ça, en particulier, c'est lié au fait, non seulement pour elle, de l'avancée des sciences, mais aussi du fait que l'existence simple de la souffrance, par exemple, contredit quelque chose comme une finalité.
Mais ce texte, il est paradoxalement assez pessimiste dans son contenu, c'est-à-dire que reconnaître que l'homme est égoïste, qui est un fait en fait qui n'est pas nouveau dans la philosophie. On a par exemple l'anthropologie de Hobbes qui est fondée en fait sur la conservation de soi-même. Mais là, le fait d'y ajouter une dimension psychologique va renforcer cette idée-là. Il y a aussi cette idée quand même, c'est sa dernière phrase, « Nous sommes bel et bien ce que nous semblons être d'éphémères mortels soumis à la nécessité et au hasard. » Et paradoxalement, ce pessimisme, on ne le sent pas tant que ça. On sent que Iris Murdoch va nous proposer quand même une solution. Ce n'est pas une fatalité dans sa bouche.
C'est ça. Quand je fais cours sur Murdoch, de manière générale, j'ai l'habitude de commencer par parler justement des faits qui sont assez négatifs, justement, comme l'égoïsme, le caractère mortel, parce que ça permet aussi de faire ressortir l'idée du bien. Alors, ce qu'elle dit, effectivement, par rapport à cette vision pessimiste, c'est est-ce que, c'est dans la souveraineté du bien, est-ce que vous qui vous prétendez réaliste, vous ne devriez pas être réaliste jusqu'au bout? Et justement, dire que il n'y a rien qui nous permette d'échapper en réalité au désespoir. Donc, c'est intéressant qu'elle se pose à elle-même, en fait, cette objection. Et en fait, la réponse est que il y a pour elle donc cette idée du bien qu'on évoquait au début, qui agit comme une sorte, alors l'image est, je trouve très frappante, c'est une sorte de pôle magnétique. Donc, c'est une sorte de pôle magnétique qui nous arrache à nous-mêmes, qui nous décentre, qui nous fait traverser le voile des illusions et qui nous force, d'une certaine manière, à nous améliorer.
Mais qu'est-ce qui nous prouve que ce pôle magnétique du bien, nous le percevons bien et que lui-même n'est pas aussi un voile contre l'anxiété, une sorte de consolation, une illusion aussi en fait. Parce que Iris Murdoch, vous l'avez dit, Emmanuel Allais, fait son auto-objection en disant « mais vous êtes dans un réalisme moral, allez-y jusqu'au bout, si vous ouvrez les yeux, vous verrez bien en fait qu'il n'y a pas de bien, mais il n'y a que du mal et de la misère. » Mais à l'inverse, on peut très bien lui dire aussi « si vous ouvrez les yeux et que vous voyez du bien, mais vous vous trompez aussi, c'est un voile. »
Oui, elle dit que c'est une idée qui est importante, mais aussi qu'on peut très facilement tourner en une forme de consolation.
Mmh.
Donc effectivement, il y a cette possibilité.
Il y a ce danger.
Il y a ce danger que, on évoquait tout à l'heure la distinction entre les apparences et la réalité. Mmh. Pourquoi est-ce que ce qu'on prend pour la réalité ne serait pas qu'une apparence de plus ?
Une apparence de plus comme celle d'une illusion, comme celle de l'amour, comme celle de faire la justice ou autre d'ailleurs.
Oui, et là peut-être qu'il y a une réponse possible du côté du caractère gratuit du bien. C'est une idée qui est exprimée par Murdoch quand elle dit « tout est vanité et le début et la fin de l'éthique
».
Alors, ça peut paraître assez surprenant. Mm-hmm. Cette formule « tout est vanité », c'est une formule que Murdoch reprend au livre de l'Ecclésiaste, qui est un livre de la Bible qui est connu également pour être plutôt sombre. Et au début, il y a donc cette affirmation, au sens strict, c'est il faudrait dire tout est buée, tout est de la buée éphémère.
Ah oui, donc c'est quand même très différent de tout est vanité.
Oui, parce que alors Jean-Yves Leloup avait expliqué bien cela. Il avait dit que dire tout est vanité, bon, c'est la traduction qui est courante, mais ça revient peut-être à introduire une connotation morale qui n'y est pas forcément ou pas ou qui n'était pas forcément au départ. L'idée du tout est vanité du Coëlette, c'est l'idée d'une lucidité par rapport à l'existence humaine. Il faut abandonner nos illusions de grandeur. Et chez Murdoch, ça devient « tout est gratuit ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout ce qu'on fait, au sens strict, on le fait pour rien. Et vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait de l'absence de télos ou de l'absence de but, elle va jusqu'à dire que non seulement le bien et le but ne sont pas des idées qu'il faut confondre, mais c'est peut-être surprenant, mais ce sont des idées qui s'excluent en réalité. Et peut-être que seul le caractère gratuit du bien permet d'en parler d'une manière qui ne soit pas justement une consolation.
Mais
peut-être.
Ce caractère gratuit, on pourrait aussi l'entendre avec l'adjectif désintéressé, par exemple. C'est quelque chose qui ne nous apporte rien, duquel on ne peut pas se glorifier.
Oui.
Mais cette idée quand même de la vanité et de faire le bien pour rien. Est-ce que ça donne envie de faire le bien ? Est-ce que ça donne envie d'agir moralement ? Si c'est la grande question d'Iris Murdoch, de se demander comment agir moralement, comment devenir meilleur au quotidien dans des situations concrètes, en ouvrant les yeux sur la réalité, et qu'elle nous dit c'est pour rien, moi j'y vais pas.
Ce qu'elle veut dire, c'est que on peut pas attendre. Et finalement, c'est une idée qui est assez classique en philosophie. Et, il faut pas attendre de récompense du fait qu'on agit moralement. Il y a un côté un petit peu paranoïaque dans la philosophie de Murdoch.
Très bien.
Parce que, en fait, elle dit que on peut toujours se demander si une action accomplie moralement, en réalité, n'était pas due à l'ego, qui est pour elle l'ennemi. C'est une structure un petit peu paranoïaque qu'il y a chez elle, qu'il y a chez Kant. Hein, c'est pas parce qu'une action est conforme au devoir qu'elle est forcément accomplie par devoir. Et elle nous dit qu'il faut... Enfin, oui, le bien n'a pas à être aimable, en réalité. Vraiment chercher à faire le bien pour lui-même. Et c'est pour ça que c'est difficile. Quand elle parle de l'attention, par exemple, de manière concrète, elle dit que De manière générale, on conçoit simplement les autres à travers nos projections et à travers nos propres obsessions ou notre narcissisme. Mais elle dit que si on dirige réellement une attention vers une personne humaine particulière, ce regard, c'est un regard qui est porté avec amour et qui nous rend en fait automatiquement sensible le fait que la personne qu'on a en face de nous a des besoins particuliers, a des désirs particuliers. Et de ce fait, c'est assez frappant, elle dit, et ça nous rend impossible de traiter la personne comme une chose. Mais c'est difficile de sortir de soi. C'est, pour elle, c'est pas du tout quelque chose qui est évident, en fait.
Ouais. On va écouter un autre extrait, Emmanuel Allais, où Iris Murdoch pose des questions. Moi, ça m'a particulièrement frappée et intéressée. Une série de questions très concrètes, où justement se pose la question de à quel moment on est sûr de faire le bien. Et là, pour le coup, le bien n'apparaît pas comme un objet un petit peu éthéré, et il ne s'agit pas de faire le bien pour le bien.
Nos attachements ont tendance à être intéressés et puissants. Et il est parfois difficile, ne serait-ce que de concevoir la transformation de nos amours intéressés dans un sens désintéressé. Mais les situations réelles sont-elles si différentes ? Doit-on garder à la maison un enfant retardé ou l'envoyer dans une institution ? Doit-on s'occuper d'une personne âgée qui est source de toutes sortes de tracas ou lui demander de s'en aller ? Doit-on maintenir une relation conjugale malheureuse dans l'intérêt des enfants ? Dois-je oublier ma famille pour me consacrer à la politique ? Dois-je négliger les miens pour mieux pratiquer mon métier ? La forme d'amour détentrice de la bonne réponse sera un exercice de justice, de réalisme, d'authentique vision de la situation. La difficulté est de maintenir l'attention fixée sur la situation réelle et de l'empêcher de refluer subrepticement vers le moi, à la recherche des consolations de la pitié envers soi-même, du ressentiment, du fantasme et du désespoir. Le refus d'accorder toute son attention peut même sécréter, avec la tentation de jouer la question à pile ou face, un sentiment fictif de liberté. La vertu est à coup sûr affaire de bonnes habitudes et d'actions faites par devoir. Mais cette habitude et cette action ont pour condition d'arrière-plan, chez les êtres humains, un juste mode de vision et une certaine qualité de la conscience. Réussir à voir le monde tel qu'il est constitue une véritable tâche.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Toujours un extrait de la conférence de 1967 d'Iris Murdoch, La souveraineté du bien sur les autres concepts. Emmanuel Allais, on parle aujourd'hui avec vous de la conception du bien d'Iris Murdoch et la manière dont elle a réussi, ou dont justement, peut-être, on va peut-être voir quelques limites à cette tentative d'allier le bien comme une notion transcendante, avec des cas très concrets, donc dans une dimension immanente, avec cette série de questions qu'elle pose notamment, doit-on garder à la maison un enfant retardé ou l'envoyer dans une institution ? Doit-on s'occuper d'une personne âgée qui est source de toutes sortes de tracas ou lui demander de s'en aller, etc., etc. Là, pour le coup, on n'est pas dans quelque chose de l'ordre de la transcendance.
Oui. Par rapport à cette notion de transcendance, Murdoch était elle-même très méfiante vis-à-vis du fait qu'on pouvait peut-être s'enfermer justement dans une simple contemplation du bien. C'est sensible en particulier dans sa discussion d'Arthur Schopenhauer. Dans le monde comme volonté et représentation, il fait une distinction intéressante entre la compassion, le fait de percevoir les souffrances des autres en particulier et du coup d'essayer de les soulager, donc ce qui est du domaine de la morale, et pour lui un état qui en fait va plus loin que cela, qui est l'état ascétique. Et dans l'état ascétique, je ne cherche plus à soulager les souffrances des autres, je renie en moi-même ce principe qu'il appelle la volonté ou la volonté de vivre. Murdoch commente, elle s'interroge sur la notion de mystique. elle note chez Schopenhauer son attrait pour Maître Eckhart en particulier, et elle dit finalement, est-ce qu'il n'est pas plus dangereux de rester dans une forme d'ascétisme que de revenir au monde et essayer en particulier d'aider les gens, ce qu'elle dit aussi, c'est revenir dans la caverne, hein, pour reprendre l'idée de Platon. Et elle est très nuancée, parce que elle pense effectivement qu'on a une sorte d'accès au bien, mais elle pense aussi que ça peut être transformé en une nouvelle forme en fait d'orgueil ou une nouvelle forme de vanité. Mmh. Et de ce fait, elle privilégie ce qu'elle appelle elle un mysticisme pratique, qui est plus proche effectivement de cet exercice de la compassion. Et une autre chose qui est frappante dans cet extrait, c'est la différence entre les amours intéressés et puis cette idée que vous avez évoqué tout à l'heure d'ailleurs, d'une approche désintéressée. Mmh. Et je pense que c'est vraiment important parce que, effectivement, de manière très concrète, notre amour est très égoïste. Et c'est ce qu'elle note. Comme Schopenhauer, elle dit que très souvent, nos manières d'aimer sont des manières qui sont possessives. On cherche à s'approprier l'autre, on cherche à réduire l'autre à nous, on cherche à utiliser aussi la personne. Et c'est très difficile d'avoir une forme d'attention qui fasse que il y a une forme d'oubli de soi nécessaire dans le fait de favoriser le besoin de l'autre. Et ça, effectivement, il n'y a rien de plus concret.
Alors, je reprends une des questions, Emmanuel Allais. On va essayer de l'étudier ensemble et vous allez me répondre comme si vous étiez Iris Murdoch qui répondait à mon dilemme. Doit-on maintenir une relation conjugale malheureuse dans l'intérêt des enfants? Quelle serait la réponse d'Iris Murdoch? Où est le bien? Quelle est la bonne action dans ce genre de situation? Puisque la vie est faite de situations de ce genre.
Oui.
Quelle serait une manière de s'approcher le plus, de tendre le plus vers ce pôle magnétique qu'est le bien?
Alors, je pense que les exemples qu'elle donne ici sont des exemples très concrets et effectivement très, très intéressants. Et que dans sa manière, en fait, d'aborder la philosophie morale, je pense que sa réponse serait que c'est à chacun, en fait, d'utiliser ses propres ressources pour, dans la situation particulière dans laquelle il est plongé, essayer d'en tirer le mieux. Alors, c'est peut-être aussi une caractéristique de sa philosophie, le fait que il n'y a pas de situation type, il n'y a pas de recueil de règles morales.
Il n'y a pas un guide moral.
C'est ça. Ce serait pratique.
Moi, j'aimerais bien avoir la réponse. Après, si oui. Je suis ce que vous m'avez dit sur Iris Murdoch, Emmanuel oui. Allais, doit-on maintenir une relation conjugale malheureuse dans l'intérêt des enfants? A priori, oui, puisque pour elle, le principal est de sortir de soi. Elle le dit juste après, il faut empêcher de refluer subrepticement vers le moi. Donc, on se dit bien qu'il faut sortir de cet égoïsme, s'ouvrir à l'autre,
oui.
Et on se dit que l'intérêt des enfants, l'intérêt des autres, va alors primer sur mon propre intérêt à moi, de mon malheur ou de mon bonheur.
Oui, sans doute. Mais là encore, je pense que c'est vraiment une question de situation personnelle. Mmh. Effectivement, oui, dans ce que vous dites, oui, le fait d'avoir à l'esprit la situation de mes enfants plutôt que mon propre bien-être, effectivement, ça va dans cette idée de l'ouverture. Et ça va aussi probablement dans l'idée que le bien est difficile. Hein, comme on disait tout à l'heure, le bien n'a pas à être aimable. Mmh. Effectivement, il y a cette notion de sacrifice qu'il faudrait peut-être nuancer.
Parce que est-ce qu'elle est dans une dimension sacrificielle?
Justement, elle se méfie de la morale héroïque. Elle pense plutôt que la morale est quelque chose de quotidien. Donc c'est pour ça que je vous disais, faudrait nuancer un petit peu.
Dans la suite de ce texte, Emmanuel Allais, Iris Murdoch nous parle donc de vision. Vous avez abordé déjà cette question de la vision dans le bon exercice ou dans la manière d'atteindre le bien. Elle dit aussi que c'est une tâche. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là, cette vision voir en fait?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de se décentrer. C'est peut-être une image qu'on peut relier à la notion d'amour qu'on a vu auparavant. Elle dit que pour certaines personnes, le fait de tomber amoureux, c'est peut-être une des seules expériences réellement spirituelles, parce que justement, ça les décentre. L'attention, brusquement, n'est plus portée vers le moi, mais elle est portée vers l'autre. Alors là, évidemment, on parle de l'amour,
voilà, c'est ce que j'avais
voulu dire. De l'amour entre guillemets authentique.
Mais comment on fait la différence entre un amour authentique et pas authentique ? Parce que vous disiez, en général, dans l'amour, oui, on a envie de posséder, on aime moins l'autre que soi-même. C'est un amour possessif, égoïste. Et là, vous parlez encore d'amour en disant qu'il est authentique. Mais moi, je peux avoir envie de posséder quelqu'un et puis dire que c'est de l'amour authentique. Vous voyez,
oui, bien
si
sûr,
c'est qu'une question de dénomination, concrètement, la distinction entre ces deux types d'amour,
oui,
c'est alors, quoi ?
Concrètement, je pense que, il faudrait évidemment là encore nuancer, mais je pense que ce qu'elle dit est très proche de l'agapé, de l'amour inconditionnel.
Mm-hmm.
Dans l'idée que, au fond, il y a rien peut-être de plus difficile que cet exercice de décentrement. Il y a rien de plus difficile que de reconnaître l'autre dans son indépendance. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle relie cette idée de l'indépendance des personnes à des questions qui sont des questions esthétiques. Elle dit que dans la contemplation esthétique, je perçois, alors que ce soit un paysage naturel ou une œuvre d'art, je perçois ces éléments pour ce qu'ils sont réellement, sans qu'ils soient réappropriés par ce qu'elle appelle l'organisme vorace du moi. Et elle mentionne une formule de Wittgenstein qui dit que ce qui est mystique, ce n'est pas comment est le monde, mais le fait qu'il est. Et elle réinterprète ça en disant ce qui est finalement important, c'est l'indépendance des choses. Voir une chose pour ce qu'elle est réellement, c'est tout autre chose que de la voir à travers un voile fantasmatique. Et maintenant, comme vous le disiez, l'ego, et c'est pour ça aussi que je vous parlais tout à l'heure d'une tendance peut-être un peu paranoïaque chez elle, on ne peut jamais être sûr
oui,
que l'ego ne va pas se réapproprier cette idée. Et du coup, se pose en fait cette question de la réalité du bien. Est-ce que, pour reprendre de nouveau Wittgenstein, est-ce que c'est pas simplement quelque chose qu'on se sent enclin à dire ?
Mmh.
Et la réponse de Murdoch à cela, ce sera, c'est très précis. Elle dit que ici le terme de foi aurait son importance, et elle rajoute si le terme pouvait être purgé de ses connotations religieuses.
Ouais, mais ça, oui, cette dimension-là, c'est-à-dire de parler de foi, de parler de bien, comme on parle de Dieu, de parler de lumière, d'employer les termes de mystique, tout en disant qu'on voudrait le purger de la dimension religieuse, c'est vouloir tout avoir, en fait.
Alors, pour Murdoch, en fait, c'était une thèse très, très importante. Un des trois textes qui figurent dans la souveraineté du bien s'appelle « On God and Good », de Dieu et du bien. Et en fait, ce que cherche à faire explicitement Murdoch, c'est remplacer, rien de moins, remplacer l'idée de Dieu par l'idée du bien. Autrement dit, nous proposer une sorte de version, effectivement, davantage mystique, dans l'idée que dans les religions, et c'est de nouveau quelque chose qu'elle trouve aussi chez Schopenhauer, si on enlève tout le caractère mythique, il y a quand même quelque chose comme une vérité, quelque chose comme un noyau. Et pour elle, derrière cette personne surnaturelle qui est supposée être Dieu, en réalité, il y a une idée ou un objet qui est le bien. Et elle a donné une conférence où elle parlait de la preuve ontologique, donc de la preuve de l'existence de Dieu, et le malheureux présentateur a dit que Dame Murdoch allait montrer l'existence de Dieu. Et elle a répondu très sèchement « Je ne ferai certainement pas cette chose ». Donc en fait, elle était très opposée, justement. Mais elle reprend en fait la preuve ontologique, en particulier la preuve telle qu'elle a été développée par Saint Anselme dans un texte qui s'appelle le Proslogion.
Donc on est au XIe siècle, hein, c'est ça ?
Oui. Et elle utilise en fait la preuve ontologique pour dire que cela prouve bien effectivement quelque chose, mais que ça prouve la réalité du bien et non pas la réalité de Dieu. Donc vous voyez, elle a effectivement une idée très très radicale du bien, de ce qu'elle entend par là. Alors peut-être que ça peut nous parler aujourd'hui, peut-être que, comme elle le dit, peut-être que le christianisme doit se réinventer. Et peut-être que...
Enfin, si elle veut purger le bien de la dimension religieuse, elle ne va pas parler de renouvellement du christianisme.
Si, parce que pour elle, c'est une forme de ce qu'elle appelle une démythologisation. Donc pour elle...
La religion sans le mythe, en fait, elle veut.
C'est ça.
Donc
c'est...
elle ne veut pas expurger le bien de sa dimension religieuse.
En tout cas, ce qu'elle pense, c'est qu'on ne peut pas confondre le bien avec une présence surnaturelle. Et de manière... tout à l'heure, je mentionnais cette notion d'une prière non dogmatique. C'est beaucoup plus difficile. Le bien, ce n'est pas une présence. On ne peut pas s'adresser au bien. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'écoute. Donc, en un sens, c'est probablement très exigeant comme idée.
Vous parlez de prière non dogmatique, Emmanuel Allais. Bah justement, on va écouter ce texte où Iris Murdoch emploie ces termes-là.
J'estime qu'il y a place, à l'intérieur comme à l'extérieur de la religion, pour une sorte de contemplation du bien, non pas réservée à quelques experts élus, mais ouverte aux hommes et aux femmes ordinaires. Il s'agit là d'une attention qui n'est pas simple planification de bonnes actions particulières, mais effort pour se détourner entièrement du moi, en direction d'une perfection transcendante et lointaine, en direction d'une source d'énergie non viciée, source de vertu inédite et complètement insoupçonnée. Cet effort, qui est détournement de l'attention de la particularité, peut être du plus grand secours quand les difficultés paraissent insolubles. Et tout spécialement quand des sentiments de culpabilité placent régressivement le regard sous l'attraction du moi. Tel est le vrai mysticisme auquel s'identifie la moralité. Une sorte de prière non dogmatique, mais réelle et importante, même si elle est aussi, sans doute, difficile à pratiquer et facilement sujette à toutes sortes de déformations.
Voilà peut-être l'explicitation, Emmanuel Allais, de ce mysticisme que préconise Iris Murdoch, cette prière non dogmatique, ouverte. C'est que c'est important, hein, ouverte, elle dit bien, non pas à quelques experts élus, mais aux hommes et aux femmes ordinaire, une attention qui n'est pas seulement des bonnes actions, mais vraiment un effort pour se détourner entièrement du moi. Est-ce que vous pensez que c'est possible, Emmanuel Allais ?
Alors, est-ce que c'est possible ? On peut tendre vers cette idée. L'idée d'une tâche, d'un effort, en fait, c'est un effort à faire de manière continue, de manière quotidienne pour elle. Alors, c'est vrai, il y a dans l'extrait le fait que la contemplation du bien n'est pas réservée à quelques experts élus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour Murdoch, on ne se méfie peut-être jamais assez de l'ésotérisme. En revanche, chacun d'entre nous, dit-elle, dans des moments qui peuvent paraître anodins, qui peuvent paraître n'avoir que peu d'importance, peut, par des petits efforts en fait d'attention, construire justement cette forme de vision. Elle parle de ces petits efforts qui ont des efforts cumulatifs si importants. Alors, je me suis demandé ce que ça pouvait vouloir dire de manière concrète. Et en fait, ça passe simplement par le fait de, à des moments où on n'a rien à faire, au lieu de ruminer, par exemple, sur nos problèmes, simplement être attentif au paysage qu'il y a autour de nous. Ou pour le dire d'une manière peut-être plus moderne qu'elle n'aurait pas anticipé, faire autre chose qu'être sur les écrans à dérouler des contenus. Ça, c'est le contraire de l'attention pour Murdoch.
On va commenter un peu plus, Emmanuel Allais, cet extrait, mais j'aimerais quand même vous faire écouter un extrait de film qui, là aussi, nous propose une situation concrète. C'est un extrait du film de Catherine Corsini qui s'intitule « La fracture ».
Tu sais, je crois qu'on était un peu usés. Enfin, je me rends compte que ça doit être difficile de vivre avec moi. Je suis tout le temps en train de me plaindre, c'est vrai. Je dois changer. Et toi, tu dois croire que tu me rends pas heureuse. Et en vrai, tu me rends tellement heureuse. Tellement heureuse. Alors, peut-être qu'on pourrait quand même continuer. Trouver une solution.
On va pas parler de ça maintenant.
Mais regarde, t'as jamais été avec quelqu'un d'aussi bien que moi. Non, mais à vous. Non, attends, j'arrête. J'arrête de quémander. C'est pas aimable de quémander, c'est pas sexy. Moi, je suis très sexy, d'accord? Donc, j'arrête. Donc, je t'ordonne qu'on continue à être ensemble. Hein? Ça, c'est sexy de dire j'ordonne. Non, attends, Julie, s'il te plaît, attends, non, là, non, Julie, s'il te plaît.
Mais ça va pas. Ça va pas, demeurer comme ça, on est où là? On est dans un hôpital à côté, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont mal, il y a des gens qui vont mourir, il y a des infirmières, elles travaillent, est-ce que tu peux te rentrer ça dans la tête? Tu n'es pas toute seule, d'accord? Tu fais jamais attention aux autres, jamais, c'est plus possible. Regarde, écoute, arrête.
Voilà un exemple donc de fracture, un couple, celui de Raph interprété par Valeria Bruni-Tedeschi et Julie interprétée par Marina Foïs qui est au bord de la rupture. Raphaël se trouvant elle-même hospitalisée pour une fracture du bras et on entend bien dans cette dispute conjugale l'idée de « tu ne fais pas attention aux autres ». Il y a des gens qui souffrent et là, tu ne parles que de toi. Alors, qui est entre ces deux personnages, Emmanuel Allais, d'une certaine manière, est peut-être dans l'erreur. On aurait envie de dire qu'il s'agit du personnage qui est égoïste, qui crie, qui dit « je t'ordonne de m'aimer ». Mais on pourrait se dire aussi que c'est l'autre, Julie, qui finalement ne prête pas attention à la souffrance de celle qui est en train de crier.
Oui, tout à fait. Il y a ces deux. Je découvre l'extrait. Il y a vraiment ces deux lectures croisées possibles. Il y avait une formule d'Oscar Wilde que j'ai toujours bien aimée. Il dit l'égoïste est celui qui ne pense pas à moi. Et ça veut vraiment dire que c'est une question de perspective. Qu'évidemment dans cet extrait, ce qui est frappant, c'est le moment où à bout d'arguments, elle finit par effectivement ordonner. Comment est-ce qu'on peut ordonner de rester avec quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à rester? Bon, effectivement, c'est une manière très possessive de concevoir l'amour. Mais de l'autre côté, effectivement, on a peut-être une personne qui n'est en face, qui n'est pas suffisamment sensible à la douleur, à la souffrance qui est exprimée, même de manière très très éruptive ou très très passionnelle.
Dans l'extrait de qu'on a entendu tout à l'heure du texte de Murdoch, où elle parle de prière non dogmatique, de vrai mysticisme, elle dit ceci, cet effort qui est détournement de l'attention, de la particularité, peut-être du plus grand secours quand les difficultés paraissent insolubles et tout spécialement quand des sentiments de culpabilité placent régressivement le regard sous l'attraction du moi. Mais précisément, la culpabilité, est-ce que c'est pas aussi ce qui nous fait agir bien?
Oui. Alors, la culpabilité.
Et dans ce cas-là, dans cet extrait, c'est aussi là-dessus, sur des sentiments de culpabilité, qu'on va jouer chez l'une et chez l'autre.
Effectivement, la culpabilité, ça peut nous permettre de prendre conscience de nos torts ou de nos erreurs ou du fait qu'on n'en fait pas assez. Mm-hmm. Et du coup, effectivement, réorienter notre action dans un sens positif. Et ça, je pense que Murdoch serait tout à fait d'accord avec ça. Mais ce qu'elle a en vue ici, c'est plutôt une manière en fait de se sentir coupable, qui est tellement poussée, est tellement en fait refermée sur soi qu'elle dispense justement d'avoir à faire autre chose que de se sentir coupable. Mmh. Et donc pour elle, ça c'est pour reprendre une expression que j'avais employée tout à l'heure, pour elle c'est un autre piège de l'ego.
Murdoch, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, Emmanuel Allais ne pense pas que la morale soit uniquement une chose qui se voit à travers des bonnes actions. Et on voit bien avec cette notion d'attention à l'autre qu'elle tire notamment de Simone Veil, tout se joue en fait de manière individuelle. C'est-à-dire que c'est presque une conversion dans son comportement qui permet de voir le monde autrement, d'essayer d'apercevoir le bien, comment le faire. Mais à partir de là, comment être sûr qu'on agit bien, qu'il y a quand même un résultat, une traduction dans le monde social ou même juste dans le monde réel, des actions à cette conversion de l'attention.
Effectivement, l'éthique de Murdoch, c'est avant tout une éthique de la vision. Un de ses articles porte sur la différence entre la notion de vision et puis la notion de choix. Et elle dit qu'il faut privilégier la vision au choix. Mais alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire.
Oui, tout se joue dans sa tête et puis finalement, il n'y a pas d'effet.
Ce serait une illusion de plus. En fait, elle dit quelque chose d'assez précis. Elle dit que si on prête justement attention à la situation de manière juste, en fait, au moment du choix, en fait, le choix est automatique. C'est-à-dire que je n'ai plus à me poser la question de savoir comment je vais agir.
Elle pense que c'est aussi radical que ça,
ah oui,
aussi immédiat.
Ah oui, elle pense que c'est aussi immédiat. Alors peut-être que vous voyez du coup pour quelle raison elle s'est beaucoup intéressée à Sartre, mais elle pensait que le choix au sens de l'existentialisme, c'était un choix qui reposait finalement sur du vide, alors que dans les situations concrètes, on n'a pas le choix. Donc effectivement, il y a la vision, mais il y a aussi l'action. Et pour elle, l'action est aussi importante que la vision. Dans les textes de la souveraineté du bien, on la voit parfois critiquer Kant, critiquer une morale du devoir ou une morale de l'impératif. Mais dans d'autres textes, comme Metaphysics as a Guide to Morals, elle insiste beaucoup sur le fait que le devoir fait partie de la morale. Et que c'est aussi important en fait que la vision. Et ce qui est important à garder dans l'idée du devoir, c'est l'idée de la contrainte. Dans la situation, je n'ai pas le choix. Mais en revanche, comme vous le disiez juste avant, ça reste une appréciation individuelle.
Et on peut
C'est-à-dire
se tromper.
Que, et bien sûr, on peut se tromper. Elle parle d'une ce qu'elle appelle une faillibilité nécessaire.
Ça va, ça déculpabilise un peu pour le coup.
Ah bah oui, oui, bien sûr.
Merci beaucoup Emmanuel Allais. De vous, on peut lire Une certaine vision du bien paru au PUF. On peut aussi lire Wittgenstein et l'énigme de l'existence. C'est aussi paru au PUF. Merci beaucoup. Et on peut lire aussi, évidemment, La souveraineté du bien d'Iris Murdoch. C'est disponible à l'éclat poche.
Merci à vous. Ideas just a way for us to understand. But the world is neither fair nor unfair. So one survives, the others die. And you always want the reason why. But the world is neither just nor unjust. Just us trying to feel that there's some sense in it. No, the world is neither just nor unjust. No going young, so much undone. There's a tragedy for everyone. It doesn't speak a plan or any secret thing. No one's inside or untold truth in anything. Believing all in others, memories and dreams is not enough. You want everything. Another world where the sun always shines and the birds always sing. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment de Frédéric Worms.
Comment l'amitié refait-elle le monde ? À la fin d'un dîner bien arrosé, ou même pendant ce dîner bien arrosé, en tout cas dans certaines sociétés, et par exemple des réveillons du Nouvel An, ou bien quand on voit deux amis qui bavardent très longuement dans un café, et qui parfois se disputent, s'emportent, et qui vont d'un sujet à l'autre, on a parfois cette expression étonnante, en tout cas en français, et pour résumer ce qui vient de se passer, on a refait le monde. Refaire le monde, c'est une expression qui vient en quelque sorte diminuer en apparence la force de la conversation qui vient d'avoir lieu. C'est une expression un peu ironique, c'est-à-dire ils ont reparlé de tout, ils ont parlé de la politique française, internationale, ils ont parlé du bien et du mal, ils ont parlé de la guerre et de la paix, ils ont parlé du climat, ils ont parlé de tout ce qui traverse le monde aujourd'hui, et voilà, ils en ont parlé, ils ont refait le monde, c'est-à-dire en fait, ils n'ont rien changé, cela n'a rien changé à tous les problèmes, ils en ont parlé pour en parler, ils ont pris plaisir à en parler, mais c'est vain, vanité de l'amitié, vanité de la parole, vanité de la conversation. Mais en réalité, au fond, n'est-ce pas plutôt une expression révélatrice et qui n'est pas seulement ironique ? N'y a-t-il pas dans ces conversations entre amis, et peut-être au pluriel de l'amitié, dans ces conversations croisées qui traversent tous les sujets du monde partagé et avec toutes les opinions qui peuvent être évoquées, n'y a-t-il pas en effet ce qui refait le monde, un monde qui se défait si l'on en parle pas entre amis, si l'on n'en parle pas avec toutes les puissances de l'amitié, l'amitié qui n'est jamais seulement un lien exclusif et individuel, qui peut être au pluriel, qui peut se partager entre une troupe d'amis, un groupe d'amis, conversation à plusieurs, conversation comme dans les dialogues de Platon, qui ne sont jamais seulement des dialogues d'une personne avec une autre, qui sont avec un groupe d'amis, avec ce pluriel des amis, des écoles philosophiques, mais aussi conversation qui parle de plus d'un sujet et avec plus d'une opinion. C'est toujours ce plusieurs, c'est toujours ce que Derrida appelait plus d'un ami, plus d'un sujet, plus d'une opinion, avec cette diversité et cette confrontation qui en même temps permet la coexistence que l'on refait le monde. Car qu'est-ce que le monde en effet ? Le monde, ça n'est pas seulement un contexte objectif et neutre. Le monde, par exemple, dans la pensée d'Anna Arendt, qui a peut-être même un peu trop durci cette notion en ce sens, le monde pour les humains, c'est d'abord le monde de la parole plurielle, le monde de la conversation, le monde créé par la diversité imprévisible des points de vue. L'ami, c'est celui qui a en effet un point de vue que je connais bien, je vais pouvoir me repérer dans la familiarité. Ah oui, il revient toujours à son dada, à son opinion, mais il va aussi me surprendre. La parole politique, c'est la parole plurielle, c'est la pluralité des paroles qui font aussi la diversité de l'amitié. L'amitié étant aussi, bien sûr, le lien qui lie ces individus entre eux dans cette conversation elle-même. Aristote, on le sait, distinguait plusieurs sortes d'amitié fondées sur un intérêt commun. Mais l'amitié fondée sur la conversation, c'est aussi l'amitié fondée sur des points de vue opposés. On peut partager l'intérêt pour la vertu et deux conceptions différentes de la vertu. On peut se disputer sur une phrase de Platon. Entrer en philosophie, c'est toujours entrer dans la pluralité des philosophies rivales, et peut-être la meilleure manière d'entrer dans la philosophie est-elle en effet par l'amitié. Et entre des amis qui discutent, il passe toujours aussi un peu de philosophie. Ainsi, dans une discussion à plusieurs, on refait les conditions d'un monde commun, on répare un monde plus abîmé que jamais, et peut-être ne faut-il pas tant minimiser ou ironiser sur ces banquets, sur ces fêtes où l'on refait le monde, peut-être très joyeusement et néanmoins très sérieusement.
Merci Frédéric et merci à toute l'équipe, Antoine Ravon, Philippine de Bellois, Anna Fulpin, Carla Michel et Shaima Giboire, à la réalisation Louise André, à la prise de son Grégory Wallon. Pour retrouver toutes les émissions d'Avec Philosophie, rendez-vous sur le site de Radio France et sur l'application Radio France.